RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir tout le monde. Voici l'émission des journaux. On commence par le titre. BPOM dit la technologie vaccinale indonésienne est supérieure parmi les pays de l'OSI. La police de Hong Kong apprécie le succès de la police nationale de l'Indonésie dans la lutte contre les terroristes. L'engagement de l'Indonésie envers l'industrie de l'huile de palme. Smesco indonésien encouragera le PME indonésien à participer au plus grand salon du vêtement à Melbourne. L'Indonésie demande à l'Union européenne de ne plus étiqueter ses produits sans huile de palme. Chers auditeurs, voici les journaux complets. La responsable de l'Agence de surveillance des médicaments et des aliments, Penny Lukito, a déclaré que l'Indonésie était considérée comme supérieure dans le développement d'une technologie de vaccination par le pays membre de l'Organisation de la coopération islamique, ou OCI. Penny Lukito a déclaré à Jakarta récemment lors d'une conférence de presse à propos de la première réunion du chef de l'autorité de réglementation des médicaments des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le progrès du développement de la technologie de vaccin dans les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique varie. Il y a ceux qui ont une capacité moyenne, certains sont encore sous-développés. C'est pourquoi la réunion des chefs des organes de contrôle des médicaments et des aliments des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique est stratégique pour partager leurs connaissances et leurs expériences sur la gestion de l'industrie des vaccins, surtout du côté du régulateur. L'Indonésie est un pays pilote qui peut partager son expérience en matière de gestion de l'industrie des vaccins et du développement de médicaments. La première réunion de l'Autorité nationale de réglementation des médicaments du membre de l'Organisation de coopération islamique aura lieu le 21 et 22 novembre 2018 à Jakarta. Loi Chung Stephen, le commissaire de police Hong Kong, apprécie le succès de la police nationale indonésienne, le général Tito Karnavian, considéré comme ayant réussi à porter la réputation de la police nationale indonésienne dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme au niveau mondial. Steven a déclaré ceci en marge de la session générale d'Interpol 2018 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, mardi. La police de Hong Kong n'a pas suffisamment d'expérience dans les affaires de terrorisme et radicalisme, contrairement à la police nationale de l'Indonésie dans l'affaire de Densus 88, qui a une longue expérience de la lutte contre le terrorisme et le radicalisme. Par conséquent, la police de Hong Kong espère d'établir une coopération plus étroite avec la police indonésienne, notamment dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme. Pour cette raison, Stephen invitait le chef de la police indonésienne, Tito, à partager des expériences avec la police de Hong Kong dans la lutte contre divers crimes en Indonésie. Tito a remercié Stephen d'avoir apprécié la performance de la police indonésienne dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme. Selon lui, la police nationale est prête à coopérer plus étroitement avec la police de Hong Kong dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, par l'intermédiaire de l'Agence d'évaluation et de développement des politiques, organise le cours régulier d'huile de palme 2018 du 19 au 26 novembre 2018 à Bogor et Jambi, participé par 15 participants de 11 pays tels que l'Australie, les Pays-Bas, la République tchèque, la Hongrie, l'Angleterre, l'Italie, la France, la Pologne, la Russie, la Slovaquie et l'Espagne. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, A.M. Fahir, a déclaré lundi le 19 novembre au Service mondial de Radio République Indonésie à Jakarta que le cours régulier d'huile de palme 2018 était l'un des efforts du gouvernement indonésien aux communautés étrangères pour expliquer à la communauté internationale sur l'engagement de l'Indonésie à préserver l'environnement de l'industrie du palmier à l'huile qui la vie des dizaines de millions de personnes dépend de cette industrie.
Dan ini upaya kita untuk menjelaskan apa yang sudah kita lakukan, termasuk dalam hal ini komitmen kita.
C'est notre effort pour expliquer ce que nous avons fait, y compris dans ce cas, notre engagement que l'industrie de l'huile de palme est durable et nous essayons de la combiner aux objectifs du développement durable. Car ici, d'une part, il s'agit de questions environnementales, mais à l'autre moment, cela concerne aussi la vie de millions de personnes. Ce qui est clair, qu'il y a environ 5,5 millions de personnes qui sont directement liées, ceux qui ne sont pas directement liés peuvent atteindre 21 millions. A.M. Fahir a expliqué que 43% de toutes les terres de palmiers à l'huile d'Indonésie sont gérées par des dizaines de millions de petits agriculteurs. Cependant, le gouvernement indonésien doit actuellement relever plusieurs défis en ce qui concerne la question du palmier à l'huile qui préoccupait les pays européens, notamment sur la déforestation ou la destruction des forêts, le problème de carbone et d'eau et le problème de perte de biodiversité à cause de l'existence des plantations de palmiers à huile. Ainsi, le gouvernement indonésien a invité 10 pays européens de 11 pays participants à participer au cours régulier d'huile de palme 2018. Selon A.M. Fahir, l'Indonésie est le plus grand pays producteur d'huile de palme au monde car il peut contribuer à 53% des besoins mondiaux en huile de palme. Semesco indonésien encouragera ses petites et moyennes entreprises indonésiennes à participer à International Sourcing Expo Australia 2018 ainsi qu'au Salon du cuir et de la chaussure 2018 qui se tiendra à Melbourne du 20 au 22 novembre. Selon Emilia Suhaimi, directrice de Semesco indonésien citée par Antara, les petites moyennes entreprises indonésiennes présenteront des produits vestimentaires tels que des sacs, des chaussures, des accessoires, du textile et d'autres produits intéressants. En participant à l'événement, les produits indonésiens peuvent être plus largement connus en Australie. Le pavillon indonésien est situé entre la frontière d'International Sourcing Expo Australia 2018 et du Salon du cuir et de la chaussure 2018. Selon Emilia Suhaimi, l'emplacement est très bénéfique pour l'Indonésie parce que les visiteurs des deux expositions peuvent visiter le pavillon indonésien. La délégation indonésienne à l'Organisation mondiale du commerce, ou OMC, a demandé de nouveau à l'Union européenne de plus étiqueter volontairement les produits sans huile de palme, car ils étaient discriminatoires et ne bénéficiaient qu'à une partie. C'est ce qu'a déclaré par Hassan Klaib, représentant permanent de l'Indonésie auprès de l'Office des Nations Unies, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, en Suisse, dans un communiqué de presse reçu par Antara à Jakarta lundi 19 novembre. L'ambassadeur Hassan Klaib a dirigé la délégation indonésienne à se battre pour l'accès aux exportations d'huile de palme sur le marché de l'Union européenne lors d'une réunion du comité sur les obstacles techniques au commerce des marchandises à Genève, en Suisse, le 14 et 15 novembre. En plus de l'étiquetage de produits sans huile de palme, l'Indonésie a également protesté contre la politique d'énergie renouvelable 2 qui entravait l'accès aux exportations d'huile de palme et de produits dérivés sur 28 marchés pays membres de l'Union européenne. La politique en matière d'énergie renouvelable 2 est une réglementation liée au plan de l'Union européenne à interdire l'utilisation de biocarburants dérivés de l'huile de palme. La préoccupation de l'Indonésie a reçu le soutien de plusieurs autres membres de l'OMC, comme Malaisie, Honduras, Colombie et Thaïlande. Chers auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Après le sommet de la région ». Deux fois, la région de l'Asie du Sud-Est a été animée par la conférence de haut niveau. La première s'est tenue à Singapour, le sommet de l'ASEAN avec ses partenaires. Ce n'est qu'en quelques jours que le sommet des pays de l'ASEAN, le sommet de l'ASEAN qui est devenu membre de l'APEC, a participé à la réunion des dirigeants des pays de la région Asie-Pacifique à Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lors du premier événement, ASEAN a discuté d'un agenda régional important, entre autres le conflit de la mer de Chine méridionale. Les parties intéressées par ce conflit, plusieurs pays de l'ASEAN et la République populaire de Chine, sont finalement d'accord pour adopter le code de conduite dans un avenir proche. L'ASEAN peut être fier de pouvoir résoudre les problèmes régionaux sans tension élevée. Si au sommet de l'ASEAN il y a déjà une tasse lumineuse, au contraire, lors du sommet de l'APEC, les dirigeants des États membres Asie-Pacifique, y compris l'ASEAN, ne sont pas parvenus à un accord pour produire un communiqué commun. Cet échec pourrait être influencé par les tensions contre la Chine et les États-Unis. En fait, ceci est plus dirigé contre inimitié que simplement augmenter la tension. L'un des points après le sommet de la paix est la visite du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, aux Philippines. Bien qu'il y ait la fluctuation des relations bilatérales entre les Philippines et la Chine dans la période du gouvernement de Duterte, la situation s'améliore. La bonne réponse des Philippines à l'idée de l'initiative Ceinture et Route de la Chine a rendu la Chine flattée. Lors d'une visite aux Philippines, Beijing avait promis d'un projet pouvant atteindre 24 milliards de dollars américains. Mais la réalisation était faible, car la Chine n'a pas compris le mécanisme des principaux appels d'offres de projets aux Philippines. Comme on le sait, les Philippines sont jusqu'à présent un allié des États-Unis dans la région de l'Asie du Sud-Est. La question maintenant, quelle est l'attitude des États-Unis envers la politique des Philippines sous Duterte? Comment les Philippines face à la possibilité de sanctions par les États-Unis? Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la Journée mondiale de l'arbre le 21 novembre. Cette date a été choisie pour respecter des services rendus par J. Sterling Morton en 1872, amoureux de la nature d'Amérique. Il était très persistant dans sa campagne pour les mouvements de plantation d'arbres. En outre, la journée de l'arbre a été créée pour rappeler aux gens l'importance des arbres pour la vie des autres êtres vivants, lutter contre le réchauffement planétaire, prévenir les catastrophes naturelles et protéger les lieux des êtres vivants du monde. L'autre information est sur la Journée mondiale de la télévision le 21 novembre. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 21 novembre comme Journée mondiale de la télévision par la résolution 51 des 105 le 17 décembre 1996. Cette décision a été prise après la tenue du Forum mondial de la télévision les 21 et 22 novembre 1996. Lors de ce forum, des dirigeants des personnalités des médias connus se sont réunis sous les auspices des Nations Unies pour discuter de l'importance du développement de la télévision pour changer le monde aujourd'hui et pour considérer comment la télévision peut renforcer la coopération. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la Journée mondiale de la pêche. Lors d'une réunion à New Delhi, l'Inde, le 21 novembre 1997, en Forum mondial de pêcheurs et de travailleurs de la pêche, ou WFF, ont été formés. Les participants ont convenu de faire de cette date comme la Journée mondiale de la pêche. Depuis ce moment, des pêcheurs de petite et moyenne échelle se réunissent chaque année dans divers endroits du monde pour commémorer la Journée mondiale de la pêche et souligner le besoin urgent de protéger les ressources halieutiques et d'y avoir accès. Le même jour, l'Indonésie a célébré la Journée nationale du poisson. La Journée nationale du poisson a été fixée par le président Susilo Bambang Yudhoyono le 24 janvier 2014 par le décret du président de la République d'Indonésie numéro 3 de 2014. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Segrita, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « Le président d'Indonésie encourage l'économie inclusive dans le forum ABAC ». Le président indonésien Joko Widodo a encouragé l'inclusion dans le développement d'un écosystème économique numérique. Cette déclaration a été prononcée lors du forum du Conseil consultatif du commerce et de la coopération économique Asie-Pacifique, ou APEC, sur le thème « Inclusion à l'ère des perturbations, tracer un avenir commun ». Lors du forum organisé dans une série du sommet de l'APEC à Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée samedi, le président Joko Widodo avec le premier ministre australien Scott Morrison, le premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc et l'envoyé spécial de Chine Taipei Maurice Chang discute des questions de commerce, d'économie mondiale et d'économie numérique. Dans son communiqué officiel publié dimanche, le président Jokowi a déclaré que le développement économique inclusif en utilisant les plateformes numériques est la priorité du gouvernement indonésien depuis 2014. L'Indonésie est estimée à être la plus grande économie numérique du Sud-Est asiatique en 2020. Comme illustration, le président Jokowi a expliqué qu'en Indonésie, en 2017, on comptait 132,7 millions d'utilisateurs d'Internet et 92 millions d'utilisateurs de téléphones intelligents. Le gouvernement doit donc poursuivre la construction de l'infrastructure numérique avec l'ajout de la fibre optique par la paring et l'agencement de spectres de fréquence afin de fournir un accès numérique abordable à la société. En outre, l'Indonésie continuera de mettre en œuvre 17% de la feuille de route sur le commerce électronique afin de soutenir son développement et d'imprimer 1000 technopreneurs en 2020. Le président Jokowi a expliqué que l'Indonésie accordait une grande attention à la jeune génération de révolution 4.0 à travers l'enseignement professionnel, les écoles polytechniques et les centres de formation professionnelle. Par conséquent, le gouvernement soutient l'utilisation de la technologie dans tous les secteurs tels que Ruang Guru dans le domaine de l'éducation ou Gojek dans le secteur des transports. Tout cela est fait pour encourager une économie inclusive. Pour assurer un développement inclusif à l'ère numérique, le président a rappelé que l'inégalité numérique devait être surmontée par la préparation d'une feuille de route pour le développement de l'Internet des objets et la mise à disposition de plateformes de marketing numérique pour les micro, petites et moyennes entreprises telles que Tokopedia et Klapa. Le président souhaite également que l'inégalité numérique soit surmontée par l'utilisation du numérique pour les régions défavorisées, par la coopération avec le marché, afin de développer des plateformes de commerce électronique potentielles, comme l'agriculture, et par l'amélioration du programme scolaire pour être plus prêt d'accueillir l'ère numérique. Selon le président Jokowi, ignorer l'inclusion peut aggraver la disparité. La disparité créera des problèmes sociaux et même des conflits. À la fin de la réunion, le président Jokowi a rappelé fermement que les tensions entre les grands pays du commerce mondial ne feraient que nuire à la société et encourageraient les conflits sociaux. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Serviteur, bonsoir. Rencontrons-nous dans le magazine culturel en programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture provenant de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous inviterons à visiter l'un des sites touristiques à Sleman, Yogyakarta. Restez à l'écoute. Berbah est un district dans la région de Sleman à Yogyakarta. Avec une superficie d'environ 2299 hectares, la région est bien connue avec une destination intéressante qui est rarement connue des touristes. Même, il y a une destination touristique qui entre comme candidat de Pesona Indonesia 2018, à savoir Lava Bantal. Le 2 octobre 2014, Lava Bantal a été défini comme géopatrimoine. Le géopatrimoine présente d'importantes valeurs de connaissances d'éducation, de culture et d'esthétique. La lave Bantal a été formée au debout de la gloire du volcan Purbang Langgaran il y a environ 36 millions d'années. La lave Bantal a été formée à partir de lave qui est sortie du volcan sous la mer. La lave chaude, qui est directement liée à l'eau froide, a gelé son minéral et a formé une géométrie semblable à un tas d'oreiller. Le nom Bantal ou oreiller est tiré de la forme de pierre provenant de la lave. Ces pierres ont formé comme des oreillers au milieu duquel coule la rivière. Serviteurs, entrez dans le complexe de lava Bantal, des nuances naturelles telles que des arbres verts, une rivière et des pierres uniques vous seront présentées. L'apparition de lava Bantal est clairement visible depuis le pont. De là, il y a une rivière de la rivière opaque qui a une eau claire et une couleur bleuâtre. De plus, le gargouillement de l'eau de la rivière parmi les caillots et le pépiment des oiseaux sur les arbres rend la nature plus belle. Certains visiteurs apprécient beaucoup de la nature et prennent des photos de l'événement. Pas moins de visiteurs veulent sentir la fraîcheur de la rivière en jouant de l'eau ou en nageant. Profiter de cette nature ne suffit pas à un moment donné. Vous pouvez descendre en marchant comme en retrachant la forme de lava Bantal il y a des millions d'années et nous pouvons directement voir la preuve des résultats de sa formation. Ayant un grand débit, le complexe de lava Bantal ouvre également l'activité de geotubing. La direction de l'objet de tourisme loue des panneaux et une bouée de sauvetage aux visiteurs souhaitant faire sensation en descendant la rivière opaque à lava Bantal. D'une durée entre 30 à 45 minutes, dépendant de l'itinéraire. Habituellement, l'activité de geotubing est bondée le week-end. Si vous avez une forte adrénaline, veuillez essayer l'activité de geotubing. En plus d'offrir un objet de tourisme à l'adrénaline, la gestion du géosite fournit également un belvédère au bord de la rivière et la zone supérieure. Les touristes peuvent être détendus tout en admirant le paysage. En outre, ils peuvent également manger aux étals qui vendent divers types d'aliments et de boissons. En outre, si vous souhaitez organiser un événement ou une réunion au complexe de lava Bantal, vous trouverez le pavillon Joglo pouvant accueillir beaucoup de personnes. Serviteur, c'est gratuit d'entrer lava Bantal. Les touristes ne payent que les contraventions de stationnement pour leur véhicule. La lave Bantal est à Watu Adek, Jogotirto, Berbah, Sleman. Si vous partez de l'aéroport Adi Sucipto, dirigez votre voiture jusqu'à la rue Solo Jogja, puis prenez la rue du nord de Berbah. Environ 15 minutes plus tard, vous trouverez facilement un panneau indiquant lava Bantal qui vous indique l'objet touristique. Serviteur, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Filmnya bagus ?» Je répète, « Filmnya bagus ?» En français, « Le film est bon ?» Chers auditeurs, bonne écoute. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Filmnya bagus ?» « Filmnya bagus ?» En français, « Le film est bon ?» Les personnages sont Ender et Tony. L'emplacement est au cinéma. La situation : Ender et Tony viennent de regarder le film de comédie et ils parlent de ce film.
Filmnya bagus dan lucu ya. Bagaimana menurutmu?
Ya, lumayan. Sebenarnya aku tidak terlalu mengerti candaan dalam film itu.
Oh?
Iya, tapi aku suka jalan ceritanya.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Filmnya bagus. En français, le film est bon. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Film. Film. En français, film. Lucu, lucu. En français, drôle. Jalan cerita, jalan cerita. En français, scénario. Lumayan, lumayan. En français, pas mal. Candaan, candaan. En français, blague. Filmnya bagus ya? Filmnya bagus ya? En français, le film est bon ya? Bagaimana menurutmu tentang film itu? Bagaimana menurutmu tentang film itu? En français, que penses-tu du film? Aku tidak terlalu mengerti candaan dalam film itu. Aku tidak terlalu mengerti candaan dalam film itu. En français, je ne comprends pas vraiment les blagues du film. Tapi aku suka jalan ceritanya. Tapi aku suka jalan ceritanya. En français, mais j'aime le scénario. Apa pendapatmu tentang film itu? Apa pendapatmu tentang film itu? En français, que penses-tu de ce film? Dans le dialogue, Ender considérait que le film qu'elle regardait était bon et drôle. Elle a dit « Filmnya bagus dan lucu ». Filmnya bagus dan lucu. Ce qui signifie le film est bon et drôle. Par contre, d'après Tony, le film est pas mal. Il a dit lumayan, lumayan, ce qui signifie pas mal. Si vous voulez demander l'avis d'autres personnes sur un film, vous pouvez dire apa pendapatmu tentang film ini? Apa pendapatmu tentang film ini? Qui signifie que penses-tu de ce film? Un autre exemple. Apa pendapatmu tentang film tadi? Apa pendapatmu tentang film tadi? Qui signifie que penses-tu du film? Si vous avez d'abord exprimé votre opinion, puis vous demandez l'avis d'autres personnes, vous pouvez dire « Filmnya bagus » filmnya bagus, qui signifie le film est bon? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Qui signifie comment d'après toi? Ensuite, je vais vous donner des exemples expressions en indonésien pour donner des opinions sur un film. Filmnya luar biasa. Filmnya luar biasa. Qui signifie le film est magnifique. Filmnya bagus. Filmnya bagus. Qui signifie le film est bon. Filmnya kurang bagus. Filmnya kurang bagus. Qui signifie le film n'est pas bon. Filmnya membosankan. Filmnya membosankan. Qui signifie le film est ennuyeux. Jalan ceritanya membuatku bingung. Jalan ceritanya membuatku bingung. Qui signifie le scénario me rend confuse. Avant de terminer le programme de l'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons la conversation encore une fois.
Filmnya bagus dan lucu ya. Bagaimana menurutmu?
Ya, lumayan. Sebenarnya aku tidak terlalu mengerti candaan dalam film itu.
Oh?
Iya, tapi aku suka jalan ceritanya.
Les amis, voilà l'édition de la rubrique Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention. À demain.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les amis, bienvenue dans le programme de musique de la voix de l'Indonésie, Pelangi Nada, magazine musical. Dans cette édition, nous allons écouter les chansons jazz de Indra Lesmana. En plus d'être connu comme chanteur, Indra Lesmana est également producteur, compositeur et ingénieur du son. Le fils d'un chanteur de jazz indonésien, Jack Lesmana, et de la chanteuse indonésienne, Nian Lesmana, était l'un des juges de Indonesian Idol de 2004 à 2014 et était l'un des juges de jury indonésien de Asian Idol en 2007. Chers auditeurs, je vous présente une chanson de Indra Lesmana et Nania dont le titre est Sedalam Cintamu.
Kau datangkan hayal yang terjanji ke dalam sukmaku, menuai rinduku. Harum tubuhmu buai lelapku, sirnakan segala resahku. Sedalam-dalam cintamu selami warna-warna terindah yang ada di bumi, terlukis di jiwa lah membelai kalbu. Sedalam cintamu tercipta untukku.
waktuku. Mengapa cintaku aura
hatimu
sentuh hatiku, sinari ruang asaku.
Sedalam-dalam cintamu ku selami, warna-warna terindah yang ada di bumi terlukis di jiwa telah membelai kalbu.
Sedang cintamu
tercipta untukku.
Laku sadari lalu termanis
rona masa yang berganti.
Ikuti hati
kau lah bisikan naluri. Warna-warna terindah yang ada di bumi terlukis di jiwa telah membelai kalbu.
Sedang cintamu
tercipta untukku. Sedalam-dalam cintamu ku
selami.
Warna-warna terindah yang ada di bumi terlukis di jiwa telah membelai kalbu.
Chers auditeurs, nous avons écouté la chanson intitulée « Sedalam Cintamu » en français « Aussi profond que ton amour » chantée par Indra Lesmana. La carrière musicale d'Indra a commencé lorsqu'il avait 10 ans. Il a performé avec son père à Bandung en mars en 1976. En 1978, Indra a commencé à enregistrer et à publier son premier album intitulé Ayahku Sahabatku. En 1978, Indra et son père ont eu l'occasion de participer à la semaine culturelle de l'ASEAN Trade Fair. À cette époque, Indra essayait de passer l'examen au Conservatorium of Music et il a été accepté à New South Wales School Conservatory of Music de Sydney. En Australie, Indra a acquis beaucoup de connaissances de Don Burrow, Roger Frampton et Paul McNamara. Sa carrière musicale s'est développée avec des groupes de jazz célèbres tels que The Basement et Soup Plus. Indra a également participé au Manly Jazz Festival tous les ans jusqu'en 1985. En outre, Indra a également rencontré des musiciens de jazz célèbres tels que Chick Corea, Dizzy Gillespie, Mark Murphy, David Baker et Terumasa Hino. Il a eu la chance de partager ses expériences avec eux. Chers auditeurs, écoutons la chanson de Indra Lesmana intitulée Mimpi Rumah Ketujuh. Bonne écoute.
Ini semua tentangmu, sifatmu, kisahmu, mimpimu. Kau berbagi selalu cerita yang sama. Kau kisahkan lagi apa yang jadi semalam bertemu sang kekasih impian. Akankah nanti jadi nyata
segala kisah kasihmu itu. Namun semua khayalmu takkan mungkin dipercaya. Lagi-lagi tentangmu, teori ide dan sikapmu. Kau berbagi selalu bulan yang sama. Aku bosan mendengar kisah yang kau ulang kembali. Bertemu sang kekasih impian, kan tak lagi jadi nyata segala kisah kasihmu itu. Namun semua kamu takkan mungkin.
Voilà la chanson de Indra Lesmana intitulée Mimpi Rumah Ketujuh ou en français Rêve de la Septième Maison, qui est aussi la bande originale du film Rumah Ketujuh de sa sœur Mira Lesmana. Le talent musical d'Indra a été connu par l'industrie du jazz américain, Zebra Records, un agent d'enregistrement de MCA Records, a sorti l'album intitulé No Standing, comme l'album solo d'Indra Lesmana en 1984. Indra a déménagé aux États-Unis en 1985. Il a également fait des enregistrements au Mad Hatter Studio pour son album intitulé For Earth and Heaven. L'album a été sorti en 1986 et est devenu le deuxième album international avec Zebra Records. Ces deux chansons dont les titres sont No Standing et Stephanie ont réussi à occuper les Billboard charts pour jazz et à figurer au premier rang de la radio aux États-Unis. Non seulement avec les musiciens de jazz du monde, Indra collabore souvent avec des musiciens de jazz du pays. Indra est devenu une icône de jazz indonésien et devenu le musicien le plus actif qui a plus de 200 compositions originales, près de 50 albums et 18 albums soloistes. Chers auditeurs, pour terminer notre rencontre d'aujourd'hui, je vous donne deux chansons d'Indra Lesmana dont les titres sont Aku Ingin, en français Je veux, et Tiada Kata, en français, pas de mots. Il chante de la chanson intitulée Tiada Kata avec Sofia Latuba. Chers auditeurs, voici les deux chansons. Bonne écoute, au revoir.
Yeah.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.